Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin, Jérôme Roten.
19h03 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, édition spéciale Coupe du Monde, bien sûr. On est en édition spéciale Coupe du Monde, Pourquoi je dis édition? N'importe quoi. On est avec Nicolas Jamin, bien sûr. On est avec Jean-Michel Larquet et avec Manu Amoros. Si vous avez raté la première heure, eh ben, on vous le dit tous les jours, c'est pas bien. Elle est déjà disponible en podcast, donc allez-y, téléchargez.
D'ailleurs, Jérôme, je te coupe, record de podcast pour Roten sans flamme.
Exactement.
Très important.
Deuxième mois de suite, hein. On a battu le record au mois de septembre, on a battu le record au mois d'octobre. Non, je dis des conneries.
On donnera les chiffres c'est décembre,
au mois d'octobre,
officiel, mais c'est un record.
Et au mois de novembre, c'est battu. Et maintenant, il y a le mois de décembre. Et ben, le mois de décembre, je compte bien qu'on continue, Nico. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Eh oui, pour faire monter les choses. Et puis
ouais,
surtout,
tu nous as quelque chose, oui.
Ben, non, exactement. Hein, tu nous as concocté encore un bon programme. C'est quoi le
succès de Roten
sans flamme? Si veut virer Jean-Louis Tour, il faut qu'il serve à quelque chose.
Non, c'est pas mon ambition. C'est un frère.
Jean-Louis, il est solide.
On n'est pas comme ça, nous, journalistes. On n'est pas comme les footballeurs.
Jean-Michel, c'est Nico dit c'est un frère. Bon, il y a un peu de tension entre les deux, mais je suis en train d'apaiser tout ça.
Parce qu'il a loupé une virée dans le désert.
Ils ont fait une tournée dans le désert et Jean-Louis n'était pas invité. Voilà, c'est pour les.
Il a essayé de le perdre dans le désert ou quoi? Non. Je dépiste dans le désert, c'est dégueulasse.
Il a prêché dans le désert. Alors les gars, 19h25, dans Roten sans flamme intégrale Coupe du Monde, le ring des supporters sur l'équipe de France. Konaté doit-il prendre la place de Raphaël Varane? Débat à venir à 19h25. Mais tout de suite, l'Allemagne ou la Belgique, Roten s'engage. Quel est le plus gros fiasco? Deux grandes nations européennes qui passent à la trappe le même jour. L'Allemagne n'est plus un grand pays de football, titré Bild, le principal quotidien allemand sorti en poule, comme en 2018. Et le cauchemar belge, demi-finaliste du mondial en 2018, leader du classement FIFA pendant 3 ans, éliminé piteusement en marquant un seul but en 3 matchs de phase de poule. Diable rouge ou Nationalmannschaft, quel est le plus gros fiasco?
Mais c'est pas possible!
Oh,
le contrôle du ballon quand ça fait la quatrième! Qu'il arrive avant dans Jérôme et Lukaku, il n'y avait plus de gardien!
Très grosse déception, on attendait la Belgique beaucoup plus loin que ça.
Contraint à la victoire face aux Croates, les Diables Rouges ont beaucoup tenté, mais n'ont pas réussi à marquer.
C'est terrible, Lukaku qui reste les mains sur les genoux, parce que si la Belgique ne marque pas, malheureusement, c'est sur les épaules de Romelu Lukaku.
C'est terminé à Albaït et tous les visages sont défaits. On a coutume de commenter la joie des uns qui contraste avec le désespoir des autres. 22 dans la douleur d'une élimination, costariciens et allemands.
Allemagne ou Belgique, quel est le plus gros fiasco de cette phase de poule? Allemagne ou Belgique, appelez-nous au 32-16 pour y participer. Jérôme.
Oui. Écoute, le plus gros fiasco, c'est compliqué parce qu'on avait mis assez haut ces deux équipes. Hein, logique, c'est logique parce que elles nous ont montré sur les dernières années des choses intéressantes. Même si l'Allemagne, depuis deux compétitions, bah ça va très mal. Ça reste des pays du football quand même, et que la génération dorée, entre autres de la Belgique, devait se rattraper plus ou moins de ce seum en 2018. Et on annonçait. En effet, pour certains, la fin de leur carrière internationale après cette compétition. Et là, là, c'est la Bérésina. Et c'est plus la Bérésina, je pense, moi, pour la Belgique, parce que il y a eu des choses qui sont sorties. Le groupe ne vit pas bien. Des règlements de compte via la presse, des règlements de compte sur le terrain dans la compétition, même avant qu'ils soient éliminés. C'est des choses qu'on ne peut pas voir. Rappelle-toi, en 2010, nous en France, on a failli. Je donne pas d'excuses à l'image qu'on a laissée et qu'on a donnée au monde entier, mais on en a fait des caisses et des caisses et des caisses, et ce qui était logique. Mais j'ai l'impression que en Belgique, on n'en a pas fait tant que ça. Mais c'est dramatique ce qu'ils ont fait. Des joueurs qui ne se parlent pas, qui se disent même pas bonjour. Et ça dure depuis un certain temps. Des problèmes physiques pour certains, des vieux qui sont pas acceptés par les plus jeunes, ou des gens de la même génération qui reprochent en effet qu'il y ait trop de lenteur, trop de ceci, trop de cela. Ils ont failli se mettre sur la tronche sur le terrain. T'imagines des gestes, on a vu des gestes repoussés quand ils étaient dans leur camp de base. Pareil, des altercations, alors qu'ils nous ont caché ça, masqué ça, alors qu'on sait tous que c'est la vérité. Et ça se traduit sur le terrain avec une équipe qui est amorphe. Alors oui, ça s'est joué à un poteau en fin de match de Lukaku qui aurait pu donner la qualif. Mais pour faire quoi en fait? Pour oublier tout ça? Ben non, en fait, ils ont failli, les joueurs, et puis surtout le sélectionneur, parce que le sélectionneur n'était pas au niveau de cette sélection belge. Et ça a été masqué un petit peu, comme il y a quelques années, par Raymond Domenech et une finale de Coupe du Monde. Malheureusement, je pense qu'il est en retard sur beaucoup de choses, Monsieur Martinez, et que il n'était pas apte à entraîner une équipe de cette qualité-là, ou du moins une équipe qui doit viser la gagne dans une compétition. Donc moi, je te dirais les Belges, parce que les Allemands, c'est un choc de génération. Et que, en effet, le choc de génération donne, et je l'ai vécu, et c'est comme ça que j'ai arrêté le football. Alors pas au niveau international, mais au niveau national. Mais n'empêche que quand il y a un décalage qui est trop important entre des gamins de 17, 18, 19 ans et des vieux de 35, 36, 37 ans ou qui ont tout gagné déjà, bah, c'est difficile de créer une alchimie, une ambiance dans un groupe. Et là, Hansi Flick, lui, il a fauté là-dessus. Ah. Mais par contre, ça veut pas dire que l'Allemagne, qui sort toujours des grands joueurs, et il y en a dans cette sélection-là, ne sera pas au rendez-vous dans le prochain Euro, dans un an et demi. Moi, j'y crois.
Voilà la vie. Donc, la Belgique est le plus gros fiasco, un plus gros fiasco que la Nationalmannschaft, selon Jérôme. Captain, ton avis?
Ouais, c'est compliqué dans la défaite quand tout le monde fait ses valises et quand tout le monde rentre à la maison. Je pense que on est tous à peu près au même point. Bon, je dirais que la différence, c'est que bien qu'il y ait eu des tensions, et Dieu sait s'il y en a eu du côté de la Belgique, au moins ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde il y a 4 ans. Au moins, ils ont été premiers du classement FIFA. Et puis, le réservoir belge...
Excuse-moi de te couper, Jean-Michel, mais les Allemands, ils ont été champions du monde pour certains en 2014. Hein.
Oui, mais ça fait deux poules finales, deux phases finales de Coupe du Monde qui passent à la trappe avec un autre réservoir de joueurs que n'a la Belgique. Et puis je sais pas, je pense que c'est du même niveau, les uns parce que l'ambiance est délétère et parce que je crois véritablement que Martinez n'a rien senti de ce groupe là rien. Je pense que quand on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, au moins on change une équipe qui perd, et cette équipe depuis 2018 commençait à perdre et il ne changeait pas. Comment imaginer qu'un joueur qui ne joue plus depuis deux ans et demi, soit capitaine d'une sélection qui va disputer la phase finale. Mais Monsieur Martinez, enfin, respectez ceux qui s'entraînent, respectez ceux qui jouent, respectez ceux qui transpirent un peu sur le terrain. Eden Hazard, ça fait deux ans et demi qu'il ne transpire plus. Il n'y a plus une goutte de sueur. Je pense que depuis deux ans et demi, il met le même équipement pour s'entraîner et pour jouer, puisqu'il ne s'entraîne pas et il ne joue pas. Ouais, donc les erreurs sont énormes du côté de Flick. On ne peut pas dire non plus que ce soit un total triomphe. Il a quand même des joueurs. Il a quand même mieux pour faire que ce qu'il a fait là. Ce n'est pas possible.
Il a quand même mieux que la Belgique en termes de joueurs, Jean-Michel.
Comment ?
Il a mieux que la Belgique, Hansi Flick.
C'est bien ce que je te dis.
Peut-être plus allemand que belge.
Ouais, c'est du pareil au même. Mais les Belges, je dirais que le fiasco des Belges, c'est plutôt en défaveur du coach. Je pense que Martinez est totalement responsable.
D'ailleurs, c'est fini pour lui.
Du côté des Allemands, je pense que ce sont plutôt les joueurs qui, à un moment ou un autre, n'ont pas réussi à se rendre compte qu'ils repartaient encore dans le mur après avoir télescopé un obstacle en 2018. C'est pas possible.
Manu, ton avis dans un instant, quel est le plus gros fiasco entre l'Allemagne et la Belgique? On fait une pause, Manu, on vient dans un instant avec toi, avec Captain Larquet dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde, vous écoutez RMC. 19h12 à Paris, 21h12 à Doha, au Qatar, on vient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin, Jérôme Rotten.
19h15 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. Bien sûr, on continue nos débats sur les fiascos de l'équipe de Belgique et l'équipe d'Allemagne. On se pose la question, en effet, savoir quel est le plus gros fiasco. Alors Jean-Michel était un petit peu de mon avis, Jean-Michel Larquet bien sûr, Nicolas Jamin aussi est là, et je vais te poser la question, on est avec Manu Amoros aussi. Manu, qu'est-ce que t'en penses?
Moi je suis d'accord avec vous, je pense que l'équipe de Belgique a montré ses limites pendant ce mondial-là, et ça fait pas que d'aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement 4 ans, 5 ans que ça dure. Je pense que l'entraîneur ou le sélectionneur n'a pas renouvelé son effectif, en intégrant au fur et à mesure avec des joueurs d'expérience, des joueurs un peu plus jeunes et des joueurs de qualité pour qu'ils puissent s'imprégner de cette sélection belge et qu'il y ait une continuité après éventuellement dans les résultats et dans la façon de faire dans cette équipe belge. C'est vrai que ça n'a pas arrangé tous les problèmes qu'ils ont créés autour d'eux, parce que c'est eux-mêmes qui ont créé tous ces problèmes-là, et ça n'a pas arrangé et ça n'a pas fait du bien à toute l'équipe quand on entend qu'ils se sont battus, qu'ils se sont disputés, qu'ils jouaient pas ensemble, parce que un match de football, c'est quand même une équipe, c'est un collectif, et si le collectif n'est pas bon parce qu'il y a des problèmes extérieurs, tu peux pas avancer dans le football, c'est pas possible. On a besoin de tout le monde.
Dans cette équipe de Belgique, c'était même pas une guerre de clans entre les Wallons et les Flamands et les Bruxellois. Hein. C'était une guerre d'individualité. Hein. C'était De Bruyne contre Courtois.
Ça date.
Ça date, mais c'est toujours là. C'était les frères Hazard contre Vertonghen.
T'as raison, Capsa, c'est problématique.
C'était pas des clans, c'était toutes les individualités. Il n'y avait aucun atome crochu entre les individualités.
L'entraîneur, il le sait. Pourquoi il prend, ou alors il fait pas, je sais pas, moi, une réunion.
Parce qu'il
n'a
pas un réservoir non plus.
Il a quand même le pouvoir de sélectionner les joueurs. Donc, quelque part, il a le pouvoir de dire, toi, je te prends, mais si je te prends, il faut rentrer dans le moule de l'équipe de Belgique. On défend un pays dans une Coupe du Monde.
En fait, le problème, Manu et Jean-Michel, tu remets ça sur la table, l'altercation Courtois de Bruyne il y a quelques...
Altercation.
On va rappeler l'histoire, parce que même on en parlait quand même.
Mais qui se parlent pas, ils se disent pas bonjour et tout ça.
Thibaut Courtois est aujourd'hui avec l'ex-copine de De Bruyne, alors que De Bruyne
il n'y est plus maintenant.
En tout cas, quand De Bruyne avait une copine.
Exactement. Donc c'est un problème privé.
Mais je suis désolé, quand t'as un sélectionneur comme Martinez. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais ils sont allés quand même en demi-finale, la Coupe du Monde, et ils ont fait abstraction. Ok, oui, mais tu es rattrapé au bout d'un moment par ce que tu sèmes. Et malheureusement, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et Jean-Michel, tu le disais, déjà rien que le fait de donner le brassard de capitaine à un joueur qui joue plus depuis 2 ans, qui est plus au niveau. Alors, il s'appelle Eden Hazard, et moi j'ai beaucoup de respect pour Eden, parce que c'est quelqu'un d'adorable. Mais il faut reconnaître, et que ça a été un joueur incroyable, il faut reconnaître qu'il est plus du tout au niveau aujourd'hui.
C'est l'un des moins mauvais, hein, sur la
Oui, mais d'accord, matchs. C'est moins mauvais, sauf
Non,
t'es un leader comme ça avec le brassard de capitaine, c'est pas juste mettre un petit bandeau autour du bras, c'est autre chose. Lui, c'est le leader technique. Tous les ballons doivent passer par lui, et c'était le cas avant. C'est plus le cas aujourd'hui. Dans le vestiaire, c'est aussi le capitaine qui est un leader de vestiaire.
C'est pas un exemple.
Donc quand t'es pas bon, et il le sait très bien, et que t'es pas au niveau, il peut pas remettre d'équerre certains qui se prennent pour d'autres. Et que, encore une fois, tu t'en remets au sélectionneur. Le sélectionneur, comment, quand il prend sa fonction, il y a quelques années, il peut accepter que même si c'est deux grands joueurs, que deux grands joueurs ne se parlent pas et ne se disent pas bonjour.
Moi, j'aurais fait un choix entre De Bruyne et Courtois.
Moi, je vais j'ai connu cette situation-là. Et moi, j'étais pas De Bruyne. Mais j'avais eu une altercation qui avait duré il y a quelques années avec Fabien Barthez. D'accord? Et avec Fabien Barthez, en effet, on se disait plus bonjour. Mais c'est problématique pour un groupe, quel que soit le joueur à qui tu fais ça. Moi, j'étais un remplaçant en équipe de France, j'étais pas un titulaire. Mais c'est problématique pour l'ambiance, pour tout ce que tu dois mettre en place. Le sélectionneur Raymond Domenech, le grand sélectionneur Raymond Domenech, comme le grand sélectionneur Martinez, ont minimisé ces choses-là. Mais tu peux pas les minimiser, parce qu'au bout d'un moment, tu perds un joueur, voire les deux, et tu perds l'entourage de ces joueurs-là. Et ben ça, c'est problématique. Et je pense qu'en effet, il est rattrapé par la patrouille. Alors, il a eu raison de démissionner parce que de toute façon, il aurait été viré. Mais il a jamais été. Ce mec-là n'a jamais été au niveau de la Belgique. Il est arrivé en 2016, Robert Martinez.
Ouais, moi j'ai vécu la même situation avec la Coupe du Monde en 82, l'affaire Larios Platini. Il y a eu deux joueurs très intelligents qui ont su séparer les deux affaires, c'est-à-dire la préparation et la Coupe du Monde et les affaires personnelles. Ça s'est pas ressenti non plus dans le groupe. Même s'il ne se disait pas bonjour, s'il ne se parlait pas, on ne l'a pas ressenti dans le groupe. Je suis désolé.
Mais Larios, il a passé la Coupe du Monde au casino de Valladolid.
Il a fait quand même le premier match.
Je fais des grosses bises à Jean-François, puisqu'il sort du même club que moi, et puis qu'il n'est pas en grande forme. Mais il n'était plus dans le groupe. Larios n'était plus dans le groupe. On peut revenir en 2022, on peut dire quoi qu'on veut, Michel Hidalgo n'a pas été lancé par Platini en disant ne fais pas jouer Larios au premier match.
Manu, c'était il y a 60 ans.
Mais tu prends l'exemple de que l'autre a piqué la femme à l'autre. Je te dis simplement l'histoire qui s'est passée et qu'on l'a bien vécu à l'intérieur.
Manu, je t'envoie le numéro de Jean-Michel, vous appelez après l'émission. Mais on veut revenir sur le débat.
Là, c'est ORTF sans flamme.
Dans Rotten sans flamme en 2022.
Excusez-nous d'avoir vécu un peu, nous.
Ouais. Pierre-Emmanuel est avec nous.
Tu es ce que tu es grâce à nous.
Il n'est qu'un héritier.
Exactement.
Pierre-Emmanuel est avec nous, 32-16. Salut Pierre-Emmanuel.
Salut la team.
Salut Pierre-Emmanuel, ça va?
Rotten sans flamme intégrale Coupe du Monde.
Ça va Pierre-Emmanuel? T'es bien, tu vis bien la compétition?
Pierre-Emmanuel, c'est ton prénom de roi.
Je rate pas un match, tant mieux.
Écoute, t'es pas dans le boycott et t'as bien raison parce qu'on se régale. C'est une belle Coupe du Monde. Ouais. Pierre-Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de ces fiascos entre la Belgique et l'Allemagne? Est-ce que t'en mets un plus haut que l'autre?
Sincèrement, la Belgique, c'est quand même un fiasco. Je vous écoutais en parler. C'est effectivement après leur Coupe du Monde 2018. C'est vrai que c'est pas. On s'attendait pas à ça. Mais pour moi, le plus gros fiasco reste quand même l'Allemagne. Sincèrement, au vu de leur dernier Euro et ils sont sortis en 8e par l'Angleterre, il y a pas photo. La Coupe du Monde 2018, ils sont sortis au premier tour, il y a pas photo. Mais là, malgré tout, dans un groupe quand même composé du Japon et du Costa Rica, on parle pas d'écurie extraordinaire.
Oui, c'est pas faux.
À part l'Espagne, ils doivent, pour moi, se qualifier et au moins finir deuxième.
Et Pierre-Emmanuel, je sais pas si t'as entendu notre débat sur et le fait d'entrer l'accusé sur l'Espagne, mais ils se sont bien fait aussi avoir par rapport aux Espagnols. Hein. Alors après, ils n'avaient pas à perdre le premier match contre le Japon.
Ils peuvent s'en prendre quand même.
Les Espagnols, tu peux leur en vouloir, mais si tu gagnes contre le Japon, tu te poses pas la question, quoi.
Mais je rejoins, mais après c'est pour ça que je suis surpris que tu dises l'Allemagne au-dessus de la Belgique et c'est ton droit et tu as raison, ouais. mais avant la compétition tu l'as dit, les deux autres compétitions l'Allemagne restait un petit peu beaucoup sur des échecs et il n'y avait pas trop de choses qui avaient changé, on avait toujours cette nouvelle génération avec cette ancienne génération et la difficulté d'avoir cette alchimie, donc tu t'attendais à quoi toi en gros?
Justement, moi je m'attends plutôt, tu sors de deux compétitions internationales où t'as pas été bon. Je crois que c'est pas arrivé depuis très longtemps. Une équipe, l'Allemagne qui sort deux fois d'affilée.
Jamais arrivé, je pense.
Et je rajoute également, Pierre-Emmanuel, le huitième de finale à l'Euro 2020 en 2021 également.
Oui,
on est sur trois compétitions ratées pour la National Mannschaft.
Le huitième de finale derrière contre l'Angleterre. Donc, effectivement, moi, je m'attendais plus à un rebond, à une autre image, juste de la fierté peut-être même de la part des Allemands, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est plus ou moins le même groupe là avec la génération. Donc voilà, je m'attendais à mieux de leur part, je m'attendais à plus d'implication et une autre image malheureusement.
Bon, en tout cas, Hansi Flick a été conforté hein, par sa direction. Il va rester le sélectionneur de la National Mannschaft. On estimait qu'il n'était pas le problème. En revanche, l'avenir Thomas Müller notamment.
Si, c'était le problème dans la construction du groupe. Et après, il a le droit d'apprendre de ses erreurs.
Hein. Tout à fait. Merci Pierre-Emmanuel d'être venu dans.
Merci Pierre-Emmanuel.
Rotten sans flamme après la Coupe du Monde. Tu reviens quand tu veux auprès de Jérôme. Captain Larquet est toujours avec nous. Manu Amoros aussi. Dans un instant, débat équipe de France. Débat défense de l'équipe de France. Konaté doit-il prendre la place de Raphaël Varane? Appelez-nous 32-16 également. Le débat sera chaud.
Là, c'est Nico.
Et je vous assure qu'on ne parlera pas de la Coupe du Monde 66 avec Captain et Emmanuel Moros. Non, on reste en 2023.
Celle de 58, on parlera.
Ouais, 58.
66, on en parlera qu'on fera un débat sur l'Angleterre.
Exactement, puisque c'est l'Angleterre qui l'avait emporté. Allez, à tout de suite dans Rotten Sans Flamme.
Intégrale
Coupe du Monde.
Quel
mépris de l'ancien. À tout de suite sur
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin, Jérôme Rotten.
19h28 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme du soir avec Nicolas Jamin, bien sûr, avec Jean-Michel Larquet et avec Manu Amoros. On continue nos débats, on va faire un ring des supporters dans un instant. Et puis après, on va se projeter sur les matchs du soir parce qu'il y a un Brésil-Cameroun et puis surtout un Suisse-Serbie où là, on joue la qualif encore entre la Suisse et la Serbie.
Ça va être chaud, tiens, information également d'une minute. Neymar va quitter l'hôtel, il va venir en tribune ce soir, on va le revoir, Neymar.
Né,
il est là.
On est né. Bonsoir à Christophe Galtier, bien sûr.
Ouais, on t'embrasse, Christophe.
Le ring des supporters, c'est parti.
RMC, Rotten sans flamme.
Le ring des supporters.
Raphaël Varane n'a pas convaincu pour sa deuxième titularisation dans ce mondial. C'était face à la Tunisie, blessé le 22 octobre. 12 jours d'entraînement collectif seulement. Il n'est pas à 100%. Vaut-il mieux un Konaté prêt, motivé, mais moins expérimenté, ou un Varane pas au mieux physiquement, mais avec un vécu international? Vous nous appelez au 32-16 pour vous mêler au débat. Jérôme.
Écoute, moi...
Konaté à la place de Varane?
Non.
Non.
Non, parce que moi j'ai trouvé sévère tout à l'heure et vous allez m'expliquer pourquoi, messieurs, Jean-Michel et Manu, pourquoi vous avez été aussi sévère avec Varane. Parce qu'il revient de blessure, certes, mais avant sa blessure, je suis désolé, j'ai regardé très souvent les matchs de Manchester United. Il est très très bien, il est revenu à un très très bon niveau. Alors oui, il est dans une équipe.
Il est revenu à un bon niveau. Il n'y a pas de
quoi.
Non,
un très bon niveau.
Jean-Michel. Taper sur la panse. Non.
Ben, c'est pas parce que je t'ai mis dans les cordes que t'es obligé de réagir comme ça. Mais je trouve que vous êtes extrêmement sévère. Je le trouvais bien physiquement, bien. Il avait retrouvé sa vitesse et puis un impact avec son compère.
Pas Mécano.
Ouais. Non. En club avec l'Argentin là, Lisandro Martinez, et je trouve que voilà, il formait une charnière très solide, qu'il y avait un impact sur le collectif, et que c'est exactement ce qu'on lui demande en équipe de France. Et que aujourd'hui,
Jérôme,
en équipe de France,
tu parles de son club, ne parle pas de son club. On parle là de l'équipe de France avec sa blessure. Il n'a pas récupéré de sa blessure.
Oui, mais il a toujours cet impact, Manu. Tu le sais très bien, l'impact psychologique sur ses coéquipiers quand il est présent.
Oui, mais aujourd'hui, je crois que ça compte moins. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir un joueur à 100% qu'un joueur avec de l'expérience.
Mais moi
je ne trouve pas à 100%. Et le match contre la Tunisie te l'a prouvé sur le but de la Tunisie.
Ouais, mais bon, excuse-moi,
il est en retard.
Le match de la Tunisie.
Il monte. Ah ouais. Oui, mais c'est un match où
il faut toujours vous excuser.
Oui,
les matchs qui sont disputés, ils ne servent à rien.
Ouais, c'est ça.
Il ne faut pas en tirer des
leçons. Est-ce que tu l'as vu tacler? Est-ce que tu l'as vu faire des passes, des transversales?
Qui c'est qui a parlé du match de la Tunisie là? C'est Nico, non?
Non, c'est moi.
Oui, bien sûr. C'est Manu aussi qui rejoint là-dessus.
Le match de la Tunisie. Ben, le match de la Tunisie, il existe. Il y a eu des performances inquiétantes.
Il y en
a certaines qui ont été encourageantes, d'autres qui ont été inquiétantes.
Écoute, j'ai pas été défenseur central, j'ai pas même été défenseur latéral. J'étais un bon défenseur quand je voulais.
Il a été bon contre l'Australie ou pas, pour toi?
Non.
Il a été pas mal. Il a pas été non plus.
Non, il a pas été mal.
Contre la Tunisie, il a été bon.
Bah, oui. Non, mais Konaté, oui, il a été bon contre la Tunisie, mais pourquoi? Pourquoi il a été bon contre la Tunisie? Je vais te dire, parce qu'il y avait Varane à côté, contre l'Australie.
Non, il n'a pas été pas. Il n'a pas été pas.
Bien sûr,
Messieurs,
que ça vous donne tort, c'est pour ça
Manu
que
Jérôme, ça s'appelle mais le règne des supporters, donc on va donner la, des auditeurs, on va pas donner la parole aux auditeurs et aux supporters tout de suite. Malcolm. Salut Malcolm. Ah, Malcolm.
Salut, bonsoir, Malcolm. Comment allez-vous?
Ça va,
Ça va, j'ai fait tourner ça quelques jours, je parle des gens du football français, ça fait plaisir.
Écoute, on est très content de t'avoir, tu nous appelles d'où?
De Paris. Pur parisien.
Voilà, un parisien on n'est pas bien, Jean-Michel.
T'es dans
Et pourtant, Manu, un parisien avec un parisien, mais je suis d'accord avec toi. Konaté.
Ah, c'est bien, c'est gentil. Jean-Michel aussi, alors.
Il est dans les cordes,
Ah, c'est bien.
Bon, merci, Malcolm, tu passes un tunnel. On te remercie.
Alors, Malcolm, dis-nous pourquoi.
Vas-y, dis-nous pourquoi tu préfères.
Alors, oui, il est vrai que Varane, dans son club, allait mieux. Le truc, c'est quand même que. Il n'est pas en forme, ça se voit qu'il n'est pas en forme. Le match de la Tunisie m'a fortement inquiété. Déjà que l'équipe de France au niveau de la défense, c'est pas le truc le plus sûr actuellement. Et je pense que Konaté vaut mieux laisser encore Varane aller mieux que de l'envoyer au feu à 70% face à un Lewandowski qui certes n'est pas non plus un très le meilleur joueur du monde quand il est sur la sélection, mais qui peut faire très mal.
Voilà,
et physiquement sera beaucoup mieux. Donc pour le
mais
coup,
il a raison, Malcolm.
Je préfère attendre justement que Varane aille mieux et laisser Konaté qui est en pleine forme profiter avec Koupa Mécano.
Mais Malcolm, j'ai la réflexion et puis je pose la même. Je pose la même question à Manu et à Jean-Michel. Donc Didier Deschamps, en fait, vous le prenez pour un lapin de 3 semaines. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'est pas à 100%. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas à 100%?
Mais il n'est pas à 100%, tu le vois sur le terrain.
Le fait qu'il sorte déjà au bout de 60 minutes,
c'est pas possible de l'équipe de France.
Mais Manu, je regarde, t'en fais pas, je regarde tous les matchs, mais c'est pas grave. Mais on peut avoir des analyses différentes.
Oui, moi je l'ai pas trouvé. Mais tu prends l'excuse de Didier Deschamps. Didier Deschamps, malheureusement, lui, non, il doit prendre des joueurs qui sont à 100%. Et aujourd'hui, oui, Varane n'est pas à 100%. Je suis désolé.
Moi, je pense comme que, en effet, il est titulaire. Il est à 100% de ses moyens physiques.
Ah, mais non.
Mais malheureusement, vu qu'il revient de blessure et que c'est pas n'importe quelle blessure qu'il a eu et qu'il a pas enchaîné de matchs avant la compétition, il est en retard sur beaucoup de choses parce que l'appréhension du très haut niveau. Mais peut-être aussi que ce joueur plus que d'autres va monter en puissance et qu'il sera meilleur sur le huitième de finale.
C'est la question, Captain.
T'aimes bien la montée en puissance.
Est-ce que Deschamps peut utiliser un huitième de finale de Coupe du Monde pour donner du rythme à Raphaël Varane?
Nicolas, le débat était bien parti parce que s'exprimaient Manu Amoros, Jérôme Rotten et de temps en temps Jean-Michel Larquet quand Jérôme Rotten lui laissait la parole.
Il était bien parti.
Et à un moment donné, comme Malcolm, qui est quand même totalement neutre, mais qui est compétent, n'était pas d'accord avec Jérôme. Jérôme est parti sur oui, mais Didier Deschamps. Là, on n'est pas en train de dire. Est-ce que Didier Deschamps va ou non, oui ou non, titulariser Varane en défense centrale?
C'est pas la question, parce qu'on sait qu'il va le faire.
C'est dommageable pour l'équipe.
Parce qu'on sait qu'il va le faire. La question était de savoir si Varane était aujourd'hui un joueur sur lequel on pouvait s'appuyer et qui donnait toutes les garanties. La réponse est non. Et c'est vrai que on a un Upamecano qui a été plutôt bon tout le temps. On a un Konaté qui a été bon une fois sur deux. Et on a un Varane qui a été moyen pendant 2 matchs. Pendant 70 minutes chaque match. C'est bien la preuve qu'il n'est pas à 100%. S'il était à 100%, il ne ferait pas 70 minutes.
Mais
il ferait les 95 ou 100 minutes.
Mais ne vous dites pas le faire enchaîner justement de l'optique d'un parcours long de l'équipe de France.
Et si tu te fais éliminer, tu fais quoi?
Et le faire enchaîner, c'est pas un laboratoire où tu fais des expériences à l'équipe de France en 8e de finale.
C'est pour ça qu'il ne fait pas d'expérience et pour ça qu'il le fait jouer. Parce qu'il estime qu'il va donner satisfaction au bout d'un moment sur des matchs importants. Je remercie Malcolm d'avoir fait le 32-16. Merci Malcolm.
Bravo Malcolm.
Salut.
Très bonne soirée à toi. Merci Malcolm. J'accueille Aurélien également dans le ring des supporters dans Rotten sans flamme intégrale Coupe du Monde. Aurélien est avec nous. Salut Aurélien.
Bonsoir, Tim.
Bon, salut, vas-y, dis-nous ce que t'en penses, toi, de Varane.
D'où tu viens d'abord, d'où tu viens? Tu viens pas de Paris?
Non, je suis un Lensois.
Ah,
ouais. On est cuit.
Esti.
Vas-y, Aurélien.
Pour moi, honnêtement, Konaté, quand Varane s'est blessé, honnêtement, j'avais beaucoup d'espoir sur lui. Et quand je l'ai vu avec l'équipe de France, j'étais un peu moins emballé. Autant Upamecano, j'ai trouvé très très bon individuellement et même collectivement avec Varane, avec la perte de Varane contre le Danemark. Je les ai trouvés très performants. Et Varane, je les ai trouvés justement très performants par rapport aux blessures. Il faut quand même se rappeler qu'il a été blessé
en
un petit moment.
En toute objectivité, n'est-ce pas?
Évidemment. Le cœur ne parle pas. Mais honnêtement, Upamecano et Varane, ça a été très bon contre le Danemark. Et pour moi, on peut pas juger Varane sur le match de la Tunisie, dans le sens où forcément.
Mais pourquoi tu veux pas le
juger? Pourquoi tu veux pas le juger?
Il a un cousin de Nico Jamin ou quoi? Tu veux pas?
Non, mais c'est surtout que.
Je me demande même si on a joué contre la Tunisie, je sais pas.
Non, je crois que ce match-là, personne ne va retenir
la Tunisie, mais c'est vrai qu'il vous a mis dans les clous. Et dans les cordes, là-dessus, quoi.
Dans les clous, oui. On est dans les cordes, c'est ça.
Dans les cordes.
Avec l'arc et les flèches.
J'ai fait une quoi?
Quand t'es dans les clous, t'es pas bien non plus.
Ouais, non, t'es pas bien.
Dans
les cordes, t'es pas bien.
Quand t'es dans les clous, t'es bien. Quand t'es dans les clous, être dans les clous.
Oui, c'est bien. C'est ce qu'il le dit.
Je vais remercier Aurélien.
Merci Aurélien.
Merci
Aurélien. Et bonne compétition.
Bonne compétition.
Merci quand tu veux.
Merci de m'avoir donné raison.
Là, je suis pas aidé ce soir.
Dans un instant, on entre dans le vif des matchs ce soir qui débutent dans moins de 20 minutes désormais avec le Brésil qu'on va revoir dans cette Coupe du Monde face au Cameroun. Serbie-Suisse, ce sera chaud. Ils peuvent se qualifier, les Serbes, ils peuvent se qualifier, les Suisses. Restez avec nous. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde, 19h39 à Paris, 21h39 à Doha. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin, Jérôme Roten.
19h41 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On est à 10 minutes de la fin de l'émission et puis après c'est l'after et après c'est les matchs en direct. Oui, il y a deux matchs intéressants ce soir encore, les derniers huitièmes de finale qu'on va connaître, les affiches dans à peu près 2h30. On est avec Nico Jamin, on est avec Jean-Michel Larquet et avec Manu Amoros. Voilà, ben on continue Nico.
Dans 20 minutes même pas, Jérôme, effectivement sur RMC dans l'intégrale Coupe du Monde, les deux derniers matchs de poule de ce mondial au Qatar, Serbie-Suisse et Cameroun-Brésil. Il était au stade de Lusail qui sera l'enceinte de la finale dans même pas deux semaines désormais. Jeannot Rességuier est avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot.
Salut Jeannot.
Jeannot, les informations principales des compositions brésiliennes notamment.
Et ça tourne énormément puisque c'est 11 joueurs différents, même si certains ont déjà participé à des matchs comme titulaire. Militao lui est replacé dans l'axe avec Bremer. On a annoncé Guimarães, ce sera finalement Fred au milieu de terrain avec Fabinho, Gabriel Jesus avec Martinelli et Anthony pour ce qui est de l'attaque de cette formation brésilienne, puisque Danilo, Alexandro sont blessés. Des nouvelles de Ney, tu en parlais tout à l'heure. Neymar sera présent pour cette rencontre, il a rassuré par l'intermédiaire d'une vidéo sa présence possible pour le quart de finale. Quant au Cameroun, on tourne aussi, notamment au niveau de la charnière. Tonton, pourquoi tu tousses? Ebos et Wu donc seront titulaires, 23 ans et 21 ans. Les deux anciens, Ngoumou et Castelletto, seront sur le banc des remplaçants. Et enfin, un 4-4-2 qui va permettre l'association Choupo-Moting à Boubacar. On y croit, on veut y croire. Oui. Il faut que le Cameroun gagne et qu'il se passe quelque chose aussi entre la Suisse et la Serbie pour que le Cameroun espère encore une qualification en huitième de finale.
Aboubakar qui a fait une entrée fracassante, Jérôme. Hein,
ouais, mais c'était une anomalie qu'ils ne jouent pas les deux ensemble. Et voilà, enfin, le sélectionneur a compris. Écoute, on verra, mais bon, il a compris contre le Brésil, qui est l'équipe la plus forte du groupe, donc ça ne sera pas facile.
Allez, c'est parti pour l'After sans flamme.
RMC, l'After sans flamme.
Roten sans flamme face à l'After avec Yoann Bredov. Kevin Diaz est là avec nous pour représenter l'After. Salut Kevin.
Bonsoir messieurs.
Salut Kevin. Bonsoir Yoann.
Salut messieurs, salut à tous. Salut.
Les codes de ce match Cameroun-Brésil?
Eh ben, sont pas mal ces codes. C'est 8,50 la victoire du Cameroun, 5,25 le nul et 1,38 seulement la victoire du Brésil. Donc faut arriver à faire gonfler tout ça. Je peux vous proposer par exemple le but de Gabriel Jesus qui marche sur l'eau avec Arsenal. C'est 2,35 le but sec, 2,45 si on rajoute la victoire du Brésil. Ou sinon on peut se couvrir avec le Brésil ne perd pas les deux équipes qui marquent, ça c'est 2,10. Rien que les deux équipes qui marquent, c'est 1,95. Hein. Quand on sait que le Cameroun doit absolument l'emporter, ça peut être intéressant. J'attends vos pronostics, messieurs.
Moi, je vais jouer le Brésil qui gagne les demi-temps.
Mais ça, c'est pas mal, c'est 2,75, Jérôme.
Voilà,
et ça sera fait pour nous. Et moi, je vais jouer le Brésil qui gagne avec... Il y a Dani Alves qui joue, hein, rappelle-moi.
Oui, tout à fait. Oui,
avec les deux équipes qui marquent.
Et ben voilà, c'est 2,95, le Brésil et les deux marquent.
Merci, Johan. Allez,
merci, Johan. Winamax, salut, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On s'est régalé encore ce soir avec toi, Jérôme, avec Captain Larquet, avec Manu. Merci, Manu.
Merci. Bonne soirée à toi.
Merci.
Bonne soirée.
Merci, Manu. À bientôt. Merci, Nico.
Allez,
on va m'avoir accompagné une deuxième fois encore. Et puis, c'est pas fini. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à partir de lundi, parce que Rotten sans flamme reprend lundi. Mais on est encore là ce week-end.
On sera là ce week-end.
Bien sûr, on est encore là ce week-end parce qu'il y a des matchs. Et puis surtout parce que dimanche, on sera derrière et on sera au stade pour l'équipe de France qui jouera sa qualification pour le quart de finale. Oui, contre la Pologne. Bisous à tous, bonne soirée. Merci, bye. L'after dans un instant sur RMC.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.